Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 1 d'une nouvelle série sur la très grande importance que représente le sang de Christ. Chers amis, cette première partie sur l'alliance du sang, je l'ai trouvée il y a plus de 42 ans dans un second-hand bookshop en Angleterre. Il y a des pages qui manquent, et par manque de temps et vu mon grand âge, je suis obligé de vous traduire très approximatif cette magnifique étude où, bien sûr, il y a des ratures dans ces pages, il y a toutes sortes de cribouillages, mais j'essaye de m'en tirer au mieux. Mais au fur et à mesure que j'irai en avant dans cette très très importante étude, je pense aussi que la mémoire pour la traduction se raffermira, et n'avons-nous pas le Saint-Esprit ? Et j'invoque la toute puissance du Saint-Esprit pour qu'il m'aide à vous transmettre ces choses de la plus haute importance qui aujourd'hui sont plus tellement prêchées. Donc, on pourrait donner à ce premier titre la vie qui est dans le sang. Le sang est une substance singulière, une substance mystérieuse. Des jeunes garçons peu imaginatifs peuvent regarder dans un abattoir et voir tranquillement le sang des bêtes abattues descendant un égout. Mais le même garçon plus âgé, plus imaginatif, s'évanouira en apercevant du sang. Le spectacle du sang sur quelqu'un après un accident est bien affligeant. Et cependant, des hommes excités et même des femmes, même aujourd'hui le plus souvent, pousseront des cris quand un pugiliste fait couler du sang pendant une partie de boxe. Il semble que le parti le plus bas, le plus vil de l'homme aime regarder le sang. Cela l'excite. Or, le parti le plus raffiné de l'homme est repoussé. Et cependant, on exprime des condoléances aux souffrances de ceux dont le sang est versé dans des accidents ou dans la guerre. Nous répétons, le sang est une substance mystérieuse. Dans la Bible, nous commençons à arriver à une certaine compréhension de cette substance mystérieuse. La Bible ne nous indique pas la composition chimique des globules rouges ou blanches, nous laissons cela aux médecins. Mais il nous dit quelque chose qui est absolument de la base du mystère. La vie de l'être vivant est, bien entendu, dans le sang. Ainsi nous lisons dans le Lévitique, chapitre 17, verset 11, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Personne ne sait rien au sujet de la vie. L'homme ne peut pas créer la vie, bien qu'il essaye à le faire dans des laboratoires. » Le conte bien connu d'autrefois, von Frankenstein et son monstre, tend à montrer comment la vie est venue d'un orage électrique en un cadavre fait de tissu humain. Mais ce n'est que l'imagination seulement. Oui, bien sûr, l'électricité est aussi la vie. Tous deux viennent de l'auteur de toute vie qui est le Dieu Tout-Puissant. Dans la Genèse chapitre 2 verset 7, nous lisons comment Dieu a créé l'homme. L'homme est donc le succès le plus grand de Dieu sur la terre. L'homme est fait selon sa ressemblance. La Bible nous apprend qu'il est fait d'une merveilleuse manière. Lisez le psaume, chapitre 139, verset 14. Oui, d'une manière beaucoup plus merveilleuse que tout ange qui est d'une création antérieure de Dieu. Les anges n'ont pas de sang, car ils n'ont pas de chair. Ils sont des esprits et ils sont de la vie spirituelle, mais ils peuvent tout de même se matérialiser quand il le faut. Voyez-vous, Dieu a formé un corps humain de l'homme, de la poussière. Et c'est-à-dire des substances et des produits chimiques de cette planète, mais après il a soufflé dans ce corps l'haleine de la vie. En d'autres mots, il a soufflé dans cette composition chimique une partie de sa propre vie spirituelle. Et cette vie se tenait dans la substance chimique que nous appelons le sang. Après la mort de quelqu'un, la personne est morte parce que la vie mystérieuse est partie du sang. La vie d'un homme est retenue dans son sang. La vie elle-même est spirituelle, mais elle doit avoir un porteur physique, et ce porteur est le sang. Le rapport entre le divin et l'humain demeure dans le sang. Et c'est pourquoi nous disons que le sang est une substance mystérieuse. Il contient quelque chose que nul savant peut expliquer. Il contient la vie de Dieu. On a pu mettre le sang humain en bouteille et produire des caisses de sang et tenir la vie qui vient seulement de Dieu dans le sang, dans des réfrigérateurs beaucoup plus bas que la température normale du sang humain. Bien que le sang descende aux températures plus basses que les températures humaines, la vie contenue n'est point affectée par la réfrigération. Des plusieurs types différents du sang, ça n'importe pas. Si le sang d'un noir, par exemple, est mis dans les veines d'un homme blanc, ou vice-versa, parce que le sang ne règle ni la couleur de la peau, ni la culture de la personne. Il porte simplement la vie qui vient de Dieu. Il n'y aurait pas de différence entre le sang mort et le sang vivant, à part de la vie que Dieu y a mis. Nous sommes extrêmement reconnaissants au docteur William Standish Reed du Christian Medical Foundation à Tampa, Floride, pour ses pensées au sujet de la conception surnaturelle de Jésus-Christ dans la matrice de Marie. Ni l'ovule femelle a du sang, mais pas le sang, pas le sperme. Le sperme n'a pas de sang. Mais c'est quand ils s'unissent, quand le conduit phallopien, j'espère que je traduis juste parce que c'est difficile, vous m'excuserez. Donc, c'est quand le sang s'unit dans le conduit phallopien que la conception a lieu et une nouvelle vie va pouvoir commencer. Les cellules du sang de cette nouvelle création viennent du père et de la mère, et le type du sang est déterminé au moment de la conception, et d'après cela, il est protégé par le placenta contre tout écoulement du sang de la mère en l'enfant. La Bible est explicite que le Saint-Esprit était le représentant divin qui a produit la conception dans la matrice de Marie. Ceci donc n'a pas été une conception normale, mais une action surnaturelle de Dieu en plantant l'âme de son Fils déjà existant directement dans la matrice de Marie, sans la conception normale d'un sperme mâle avec un ovule femelle de Marie. Comme le sang du Fils de Dieu était d'un groupe séparé et précieux, il est inconcevable que Marie aurait pu fournir de son sang d'Adam en l'Immaculé Agneau de Dieu. Tout le sang de l'enfant est venu de son Père aux cieux, et ceci par une action créatrice surnaturelle de Dieu. Le sang de Jésus-Christ était sans aucune tache concernant le péché d'Adam. L'idée tenue par beaucoup de gens que Marie a fourni l'ovule et que le Saint-Esprit a fourni un sperme spirituel voudrait dire que Jésus-Christ aurait été conçu avec du sang mélangé, une partie d'Adam et une partie de Dieu, ce qui est répugnant au dessein de Dieu pour le salut d'une race humaine pécheresse et perdue. C'est aussi la source de l'idée tenue par des cultes exsangues, métaphysiques, que Jésus n'existait point avant sa conception dans la matrice de Marie. En effet, Dieu dit dans la Bible qu'il a préparé un corps pour son Fils. C'était le corps qui a été créé dans la matrice. C'est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu « Tu ne veux ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Hébreux, chapitre 10, verset 5. Jésus savait, bien avant sa naissance à Bethléem, que son Père lui a construit avait construit et préparé un corps, ce qu'il a décrit plus tard comme le temple de Dieu. Il est descendu tout simplement des cieux et est entré dans le corps nouveau créé dans la matrice de Marie, sa merveilleuse mère terrestre, et ce corps avait le type de sang créé par son Père. Il n'y avait rien entremêlé d'Adam. Jésus-Christ était le Fils unique du Père. Évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Et son corps a été formé et fait d'une manière merveilleuse dans la matrice de Marie, sa mère. Mais la vie qui était en Jésus-Christ ne venait que du Père par le Saint-Esprit. Ainsi, cette vie qui s'écoulait dans les veines du Seigneur Jésus-Christ venait de Dieu. C'est pourquoi il a dit « Je suis la vie ». Dieu a accordé sa propre vie dans le corps de sang de Jésus-Christ. Le sang d'Adam est corrompu et Marie a déclaré que Jésus, son fils bien-aimé, était Dieu, vraiment son sauveur. Évangile de Saint-Luc, chapitre 1, verset 47. Donc Marie était le porteur élu du corps de son fils. Mais tout le sang venait de Dieu. Nous ne savons pas aujourd'hui combien de catégories de sang humain ont été enregistrées par les médecins, mais nous savons que le groupe de sang du Seigneur Jésus-Christ était entièrement différent, car le sang qui s'écoulait dans ses veines était parfait, sans maladie, car il n'était pas souillé par le péché d'Adam, ce qui avait fait entrer dans le sang humain du mal et des maladies. Et si Adam n'avait pas péché, il ne serait pas mort. Mais par le péché, il avait introduit la mort, dans la famille humaine. Le corps humain est ainsi rendu sujet à la corruption et à la mort. Et finalement, la mort vient pour chacun, et la vie qui est dans le sang part avec l'esprit et l'âme de l'homme. Jésus-Christ n'avait point de mal en son corps, mais il s'est laissé mourir pour les péchés de l'humanité pécheresse. Il a offert la vie parfaite qui était dans son sang parfait pour payer la libération de la mauvaise humanité qui portait la mort dans leur corps. Le sang pur pour le sang imparfait et souillé. Une vie pour la vie, car la vie est dans le sang. On a dit que Jésus-Christ était le dernier Adam, car comme il était fait selon la ressemblance du premier Adam, ce qui veut dire « homme », Dieu devait envoyer son Fils unique au monde pour vivre comme un homme avec le sang dans ses veines, afin qu'il pourrait verser ce sang avec la vie de Dieu pour la vie de l'humanité. Chers amis, l'intention de cette étude est de montrer la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ aujourd'hui pour tous ceux qui ont la foi de l'utiliser. Cependant, il faut une explication du sang comme un agent d'expiation. Un des cultes exsangues a offert la suggestion éclatante que le mot « expiation » veut dire « unification ». En anglais, « atonement » ne veut pas du tout dire « unification ». Vous pouvez regarder avec les anciens dictionnaires, vous ne trouverez pas que « atonement » veut dire « unification ». On ne peut dire cela que c'est un jeu de mots, mais ce n'est pas le sens littéral. Le mot « expiation » veut dire une couverture, tout simplement. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a été bien plus abondante encore, car avec la grâce est venu le sang de Jésus-Christ qui efface tout notre mal et le péché y compris. Oui, l'amour couvre une multitude de péchés. Si nous nous rappelons bien le sens du mot « expiation », nous avons découvert une vérité importante. Voici que Dieu nous fournit une substance avec laquelle nous pouvons couvrir les choses dont nous n'avons plus besoin. Et Dieu garantit de ne pas même voir nos péchés après que nous comptions par notre foi que le sang les avait couverts. Et c'est pourquoi nous verrons que quand Dieu voit le sang, il ne voit point le péché. En nous adressant encore une fois à Lévitique, chapitre 17, verset 11, nous trouvons que la vie n'est pas seulement dans le sang, mais que le sang est la seule substance qui peut faire une expiation ou une couverture. Et ceci pour nos âmes. Oui, le pécheur, donc, en acceptant le substitut, en l'époque de l'Ancien Testament, un animal pur, a été trouvé que le substitut doit mourir au lieu du pécheur. Donc l'animal devait mourir à la place du pécheur. Tout au commencement de l'univers, Dieu a ordonné que les animaux vivants, par Adam, doivent être tués par lui et leur sang être versé pour fournir une couverture pour la nudité évidente d'Adam et d'Ève. Bien sûr, il faut pas mal comprendre, Dieu n'a pas dit de tuer tous les animaux, bien sûr que non. Les feuilles des figuiers étaient exsangues, mais les peaux couvraient donc par le sang, en quelque sorte. Une vie pour une vie a donc sonné dans toute la Bible. Et donc Adam et Ève avaient les vêtements de Dieu pour les couvrir au lieu de leur propre récolte des feuilles. L'homme laissé seul invente ordinairement des religions qui n'ont pas besoin de verser du sang. Ceux-ci sont des religions de feuilles de figuier. Même dans l'Église catholique romaine, le vin n'est pas offert à la congrégation, mais la hostie seulement. Ceci est une offrande exsangue, car il n'y a point de vie en la chair sans le sang. Dans les services protestants de l'Eucharistie, le pain et le vin sont offerts, ce qui nous parle de la parole de Dieu et du sang de Christ. Le nom de la parole de Dieu est Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 19, verset 13. Mais sa vie est dans le sang. Dans 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 5, verset 8, nous lisons « Il y a trois témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et tous les trois sont d'accord. » L'eau est souvent un symbole dans l'Écriture sainte pour la parole de Dieu, car c'est cela qui nous lave continuellement, comme nous lisons dans Éphésiens, chapitre 5, verset 26. « Il nous purifie continuellement. » Mais la parole sans le sang est inefficace, car la vie de la parole de Dieu est dans le sang. Donc, nous ne pouvons pas prendre l'un sans l'autre. Nous prenons le pain et le vin à la fois. Ce qui parle de Jésus-Christ, la parole crucifiée de Dieu, et le sang qu'il a volontiers fait verser pour nous. Le Saint-Esprit est aussi complètement en accord avec l'eau et le sang, et c'est pourquoi quand nous faisons honneur au sang, le Saint-Esprit manifeste immédiatement sa vie en nous-mêmes. Les prochains CD révéleront comment plaider ou manier le sang de Jésus-Christ en la foi. N'oublions jamais, le Saint-Esprit est uni avec la parole de Dieu et avec le sang de Jésus-Christ. Et ils sont tous en accord. Ils sont une trinité en une seule unité. Remarquez aussi qu'au jour des expiations dans l'Ancien Testament, le sang a été aspergé sur le livre. Pourquoi? Parce que le livre est un livre inanimé pour le lecteur si le sang n'y est pas appliqué premièrement. Le livre, la parole de Dieu et aussi le peuple ont été aspergés de sang. Il y a quelques-uns qui nous diront qu'il suffit d'avoir le nom de Jésus. Il nous faut le nom et le sang, car la vie est dans le sang. Le nom reçoit sa puissance et son autorité parce qu'il a versé son propre sang et l'a offert à son Père, qui a donné là-dessus son pouvoir et son autorité à son Fils. N'est-il pas étonnant qu'il a crié dans l'angoisse de l'âme, pas autant que du corps. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Psaume chapitre 22, verset 1, ainsi que Matthieu chapitre 27, verset 46. Pourquoi le Père avait-il abandonné le Fils ? Il est écrit que Dieu ne peut pas regarder le mal. Habacuc, chapitre 1, verset 13. J'espère qu'on dit en français Habacuc. Et donc, lorsque Jésus portait les péchés du monde en son corps sur la croix, le Père ne pouvait point regarder son Fils, qu'il avait rendu solidaire de notre péché. Il satisfaisait au type du serpent d'airain sur le poteau. Notez Évangile de Jean, chapitre 3, versets 14 et 15. Il avait une nature semblable à la nature pécheresse de l'homme. Romains, chapitre 8, verset 3. Et ceci de sorte que le Père ne pouvait point le regarder. Mais quand son propre sang avait couvert son propre corps, sur lequel était venue notre iniquité et nos maladies, selon Ésaïe chapitre 53, verset 6, alors le Père pouvait de nouveau regarder son Fils unique, car il s'était montré obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et maintenant, nos péchés étaient expiés ou couverts sous son propre sang précieux. Oui, sa vie pour nos vies. Le Père regardait donc pas notre péché, mais le sang de son Fils. C'était assez. Son Fils avait offert sa vie dans son sang pour l'humanité. Son sacrifice était donc absolument parfait. Voici une énigme, le sang qui parle. Après le meurtre d'Abel par son frère Caïn, nous lisons dans la Genèse chapitre 4 verset 10, l'Éternel dit, qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Il est évident, d'après cette écriture, que la vie qui était dans le sang d'Abel ne cessait pas après son meurtre, mais elle a crié pour la vengeance. Peut-être que nous ne puissions pas comprendre cela dans un royaume matériel, mais dans le royaume spirituel, il n'y a aucun doute que le sang répandu crie à Dieu pour la vengeance, car Dieu ne peut juger que l'injustice. En Hébreu, chapitre 12, verset 24, l'écrivain fait allusion au sang de Jésus-Christ en le mettant en contraste avec le sang d'Abel en ses paroles. Le sang répandu qui parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Tandis que le sang d'Abel criait la vengeance, le sang de Jésus-Christ crie la grâce. Et c'est pourquoi le propitiatoire dans le lieu très saint a été aspergé avec le sang des taureaux et des chèvres ou des brebis quand le grand prêtre entra dans le sanctuaire chaque année. Hébreux chapitre 9, verset 25. Le résultat d'une telle aspersion était que Dieu avait montré sa gloire du Shekinah et avait parlé au grand prêtre d'entre les deux chérubins qui couvraient de leurs ailes ce propitiatoire qui était le dessus en bois de l'arche du témoignage, couvert avec de l'or. Remarquez que la gloire a été vue et la voix entendue quand le sang a été utilisé. Il ne suffisait pas que le grand prêtre avait uniquement la foi dans le sang pour l'expiation des péchés d'Israël pour l'an dernier ou la dernière année. Il a dû l'utiliser exactement de même aujourd'hui. Et cela nous rappelle le jour de la Pentecôte, quand la voix de Dieu a été entendue par les gens qui parlaient en d'autres langues, et la gloire a été vue sur les visages des 120 membres du corps de Christ. Maintenant, chacun de nous peut entrer dans ce lieu saint, les cieux mêmes, grâce à la mort de Jésus-Christ. Il nous a ouvert un chemin nouveau et un chemin vivant au travers du voile, c'est-à-dire au travers de son corps. Nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une foi pleine d'assurance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé au moyen d'une eau pure. Hébreux, chapitre 10, versets 20 et 22. Quand le grand prêtre de l'Ancien Testament est entré dans le lieu le plus saint, il aurait été mort s'il n'avait pas offert du sang. Il n'avait rien offert sauf le sang. Aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, on trouve beaucoup de gens qui offrent d'autres choses, des œuvres, de l'émotion, du feu étrange et de l'adoration. Mais nous devons savoir que si nous entrons dans le monde céleste en Jésus-Christ, nous ne pouvons le faire que si nous offrons sciemment le sang de Jésus-Christ comme notre seule possibilité. Donc, plaider le sang de Jésus-Christ, c'est offrir notre péché. Nous ne portons rien dans les mains. Nous nous cramponnons simplement à sa croix. Quand nous plaidons le sang de Jésus-Christ, immédiatement, il intercède pour nous, parce que c'est son sang qui parle. Il parle. La grâce du propitiatoire aux cieux où Jésus-Christ est assis avec son Père. Et nous plaidons le sang de Jésus-Christ. Nous sommes donc persuadés que l'Église entière n'a pas encore appris la valeur d'utiliser le sang de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont découvert ce secret, tout le royaume de la puissance de Dieu est ouvert et tous les anges aux cieux s'élanceront pour aider et sauver l'enfant de Dieu qui fait honneur au sang de Jésus-Christ et l'utilise pour intercéder. Le Saint-Esprit répond au sang de Christ. Quand Lester Sumrall de South Bend, Indiana, a délivré une fille possédée par un démon en Manille, aux Philippines. Le démon dans la fille a parlé en anglais le plus pur, bien que la fille ne parlait que le patois local. Cet esprit démon a maudit premièrement le père, ensuite le fils, et puis le Saint-Esprit, et puis même le sang de Jésus-Christ. Nous avons entendu frère Sumrall dire au Full Gospel Businessmen's Fellowship Convention dans l'hôtel Sherman à Chicago, Illinois, qu'il semblait presque comme si le démon savait que le sang de Jésus-Christ vivait, tellement il l'a maudit. Comme nous avons compris que la vie est dans le sang et que le sang de Jésus-Christ parle, nous ne sommes pas du tout étonnés de la réaction d'un puissant démon. Satan fait tout ce qu'il peut pour aveugler cette vérité des chrétiens. Le modernisme ne veut rien avoir à faire avec ce qu'ils appellent une religion d'abattoir. Ils ont une religion sans la vie de Dieu. De telles religions sont tenues captives par Satan, mais aussitôt que nous faisons honneur au sang de Jésus-Christ, en un sens actif, eh bien nous faisons trembler les démons. C'est un peu comme un feu dans un nid de frelons. Croyez-moi, si vous êtes tout près d'un nid pareil, eh bien, vous avez meilleur temps de faire un 100 mètres aussi vite que les champions olympiques. Nul chrétien prudent n'oserait chasser des démons sans la foi dans le sang de Jésus-Christ. Le livre de la Genèse nous enseigne que les patriarches anciens offraient des bêtes comme sacrifice. Abraham a offert un bélier, Genèse chapitre 22, verset 13. Et Noé, il a bâti un autel après le déluge et a offert de toutes les bêtes pures et de tout oiseau pur qui ont été délivrés sains et saufs du déluge à Dieu. Genèse chapitre 8, verset 20. Rien de peu de valeur pouvait être suffisant. Quelques-uns auraient suggéré que ce n'était que du gaspillage de tuer et d'offrir des bêtes précieuses que Dieu avait délivrées. Pourquoi pas s'agenouiller tout simplement, disent-ils, et offrir une petite prière de remerciement? Oui, pourquoi pas? Du reste, aujourd'hui, on n'a pas tellement le choix. Satan est à la fois le prince, le souverain de ce monde et le prince de l'atmosphère qui entoure toute la terre. C'est écrit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 12, verset 31 et Éphésiens, chapitre 2, verset 2. C'est seulement la grâce de Dieu qui nous abrite de la puissance incroyable d'un ange méchant et destructeur qui est Satan. Et c'est seulement la foi dans le sang précieux de Jésus-Christ qui s'interpose entre nous et le diable et ses esprits de démons. Sans le sang répandu sur le linteau et les deux poteaux des demeures des Israéliens, les premiers-nés auraient tous péri. Même le bétail a été sauvé par le sang. Quelle vérité merveilleuse! Voyez-vous, le sang de Jésus-Christ vous protège pour votre demeure et pour votre bétail. Il le fera et l'ange de mort se tiendra assurément loin de vous et loin des vôtres. On nous a dit que ce n'est pas biblique de prier pour le bétail. Mais nous avons vu des vaches et des chiens guéris même avec l'imposition des mains. John Lake, un évangéliste de grande renommé d'autrefois. John Lake a été demandé de prier pour un cheval qui saignait à mort dans la rue à Johannesburg. Il a accepté le challenge et il a réprimandé l'écoulement du sang qui s'est arrêté et croyez-moi, le cheval s'est levé et a vécu. Le sang de Jésus-Christ a été honoré au lieu du sang du cheval mourant. Tout revient, oui, tout Je pense qu'il faut dire tout revient au mot expiation, traduit de l'anglais, qui veut dire une couverture, une protection. Quand les Israéliens ont pris le sang et l'hysope et l'ont éclaboussé sur les linteaux et les poteaux, je ne sais pas si éclabousser c'est le bon mot, mais vous interpréterez à votre façon, eh bien Dieu ne pouvait pas permettre à Satan et ses esprits de démons d'entrer dans leur demeure. Satan était un être graissant les dents parce que les Israéliens ont utilisé du sang. Nous croyons que la raison que tant de chrétiens sont faibles et malades et craintifs aujourd'hui, c'est parce que on ne les a pas enseignés d'utiliser le sang de Jésus-Christ comme une couverture, une protection. Oui, chers amis, l'histoire de la courtisane, Rahab, ça c'est une belle histoire. La courtisane Rahab et les deux espions israéliens étaient dans la cité de Jéricho. C'est un récit très remarquable de la délivrance par le sang. Le cordon d'écarlate était un gage du sang. Et notez Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, n'est-ce pas ? Israël a été ordonné d'entrer et de capturer une cité méchante qui était tout entière, vraiment dans le mal, dans le péché. On peut dire que c'était épouvantable. Aussitôt que les deux enfants de Dieu sont arrivés, Rahab a commencé à se sentir avoir besoin de se repentir. Sa conscience l'a tourmentée et elle a entendu parler de la renommée du Dieu d'Israël. Or, elle a commencé à le confesser. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux et en haut et sur la terre en bas. Josué chapitre 2, verset 11. Elle leur a demandé de l'aider à vivre, car elle savait par une révélation de l'Esprit Saint que Israël sûrement remporterait la victoire et détruirait Jéricho. Elle voulait être laissée vivante avec toute sa famille. Comment faire cela ? Oui, comment le faire ? Elle voulait bien accéder à l'enseignement et l'instruction des enfants de Dieu. Elle voulait pas être rebelle. Elle voulait recommencer une vie nouvelle. Donnez-moi une preuve assurée, a-t-elle dit. Et les espions ont promis par le Dieu d'Israël qu'il laisserait vivre Rahab, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. En effet, tous ceux qui habitaient la maison. Qu'il est merveilleux de savoir qu'on a enseigné à l'Israël à prendre un agneau pour une demeure. C'est curieux, n'est-ce pas ? Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, mis à mort avant la création du monde, est donc devenu efficace pour cette pauvre courtisane et sa famille pécheresse. Jésus n'attire pas ceux qui ont la sagesse mondaine et qui sont pharisaïques. Il est venu à ceux qui avaient vraiment besoin d'un médecin pour l'âme et le corps. Et voici une pauvre femme qui avait besoin vraiment d'un médecin, formidable. Et Jésus-Christ était prêt à pardonner même en ces jours-là. Oui, les deux espions savaient que le sang qui avait été aspergé sur les linteaux et les poteaux de leur demeure en Égypte leur avaient été donnés comme un signe. Lisez Exode chapitre 12 verset 13. Exode chapitre 12 verset 13. Les espions se cachaient. Ils étaient poursuivis par le roi de Jéricho, qui avait connaissance de leur présence. Ils n'avaient pas le temps de tuer un agneau et de faire ce que Moïse avait fait. Or, ils ont dit, « Eh bien, nous te donnerons une preuve. Tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre. » Josué chapitre 2, verset 18. Les espions ont dit à Rahab que si elle le faisait, en faisant honneur au sang qui représente Christ, tout son ménage serait protégé et que ses bien-aimés sortiraient vivants, même si tous les autres gens en Jéricho allaient mourir. La délivrance par le sang, c'est cela. Les mêmes instructions ont été données à cette femme gentille. Restez dans la maison, et si quelqu'un sort des portes de la maison, son sang sera sur sa tête. Tous les gens dans ce ménage ont donc été sauvés. Ceci a montré une fois encore que la foi inébranlable par les deux espions ont été capables prophétiquement de promettre une chose ainsi remarquable. Ils avaient la foi dans le sang. Et nous savons que la femme a fait ce qu'on lui a dit en la foi complète et en la simplicité. Qu'il en soit comme vous avez dit. Et elle attacha le cordon d'écarlate à la fenêtre. Josué, chapitre 2, verset 21. Oui, il existe une ligne de sang que le grand destructeur ne peut pas traverser. Mais l'avez-vous mis en place, chers amis? Nous connaissons l'histoire si bien. Les Israéliens, amenés par leur armée, oui, donc on sait qu'ils ont été amenés par une armée qui chantait, figurez-vous cela, et qui marchait autour des murs de Jéricho pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils ont marché autour 7 fois. 7 indique toujours la perfection dans les Écritures saintes. Ensuite, Dieu a joué son rôle. N'espérez-vous jamais, chers amis, que Dieu jouera son rôle avant que vous auriez fait tout ce que vous savez faire. Dieu a envoyé un terrible tremblement de terre. Il a détruit les murs de la cité. Or, les Israéliens sont entrés et l'ont mis à feu en tuant à droite et à gauche. Mais la section du mur sur lequel se trouvait la demeure de Rahab est restée intacte. Sa demeure n'a pas été touchée. Elle est sortie vivante avec toute sa famille et s'est unie avec le peuple de Dieu. Ceux qui ont cru ont été sauvés et acceptés dans la maison d'Israël par la foi dans le Dieu d'Israël, et le sang de Jésus-Christ leur était disponible même en ces jours-là. Remarquez bien, remarquez particulièrement que si Rahab n'aurait pas obéi aux détails donnés par ses espions, elle et toute sa famille auraient certainement péri. C'était le signe de la ligne sanguine qui les a sauvés, car quand Dieu a vu ce cordon d'écarlate, ces anges, eh bien, ces anges ont passé au-dessus de la maison, et donc, personne n'a péri par le destructeur, et personne a pu être ennuyé par le destructeur. Vraiment un miracle. Rahab a donc utilisé le sang, pas avec une foi passive, pas du tout, mais par une foi active qui remporte toujours des résultats. Il est intéressant de lire que le grand sacrificateur a été ordonné. Une partie de l'ordination a compris l'action par Moïse de se mettre du sang. Primo, de se mettre du sang sur le bout de son oreille droite. Secondo, sur le pouce de sa main droite. Et tierzo, sur le gros orteil de son pied droite. C'est écrit dans Lévitique chapitre 8, verset 24. Lévitique chapitre 8, verset 24. Donc, Israël a été enseigné que le sang purifiera et sanctifiera tout ce qui entrera dans l'oreille de l'homme et que tout ce qu'il fera avec sa main sera purifié et qu'il ne souffrira aucun mal physiquement ou spirituellement et n'importe où il ira pour faire ses devoirs de la vie, l'endroit sera béni et nul contamination sera possible, même s'il entrera dans un repère ou endroit où existe le mal. La protection du sang tiendra Satan loin de sa vie des pensées, de sa vie de travail et partout où il ira. En rappelant l'enseignement donné par l'apôtre Paul que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, et qu'il ne nous faut avoir aucun contact avec ce qui est impur, il est intéressant de se rendre compte du fait que comme les fils du grand sacrificateur par Jésus-Christ, nous aussi pouvons appliquer son sang précieux à nos oreilles, nos pouces et nos orteils, et savoir que notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, seront conservés purs, c'est-à-dire sans tache, pour le jour où viendra notre Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Nous répétons que nous sommes persuadés que la raison pourquoi tant de chrétiens vivent des vies si misérables, avec des maladies et le péché répétitif, c'est parce que qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'il nous faut changer notre foi passive et théologique par le sang en une foi vitale et active et qui utilise, qui asperge et qui le plaide, qui reconnaît qu'il est ainsi efficace aujourd'hui encore quand on l'applique par la foi, oui, par la foi, comme dans les jours de Moïse ou de Josué. Le sang nous protège et nous le savons. Oui, il y a une substance par laquelle tous les démons de l'enfer ne peuvent point pénétrer, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Et quand on l'applique par la foi, il n'est pas là automatiquement. Le salut n'est pas automatique. La guérison pour le corps n'est pas automatique. Nulle promesse de Dieu est obtenue automatiquement, mais toutes les promesses sont obtenues par la foi et maintenue par une continuation de foi pareille. Nous ne devons pas abandonner notre foi en le sang de Jésus-Christ. Et pour illustrer cela, il y a là une vérité que laissez-moi vous raconter ces événements. Une mère de famille avait préparé un porridge très chaud pour son enfant, car c'était l'hiver. En montant l'escalier pour l'apporter à son enfant, elle a manqué une marche et tout le porridge très bouillant s'est répandu sur son bras. La douleur a été épouvantable et le bras est devenu rouge-violet. Donc, Madame White, c'est comme ça qu'elle s'appelle, a plaidé le sang de Jésus-Christ à haute voix, et ceci plusieurs fois, croyant que par la foi, il a été appliqué au bras blessé. Après quelques minutes, la douleur a cessé et elle a pu s'occuper de son enfant. Et ce soir même, tout ce qu'on a pu voir était une petite marque rouge en grandeur comme une pièce d'argent anglaise où s'est trouvé le milieu de la brûlure. Et le matin suivant, on n'a pu voir aucune trace de rouge. La chair et la peau étaient parfaitement saines et guéries. Il faut réaliser que Satan, c'est vraiment l'auteur de la plupart de nos problèmes, maladies, désespoir et tout le reste. Les visiteurs envoyés par Satan sont les démons. Vous pouvez le lire dans Job chapitre 2. Lui en savait quelque chose. Et ceux-ci veulent attaquer des parties fragiles de nos corps et permettre aux germes qui nous entourent constamment, on est entouré de toutes sortes de virus, surtout aujourd'hui, et de nous attaquer et de faire leur travail de destruction et d'empoisonnement. Quand le sang de Jésus-Christ y est appliqué par la foi, il fait une protection qui va empêcher Satan de nous attaquer. Donc, même si on parle d'une pandémie, si par la foi véritable, vous invoquez le sang de Christ sur vous, croyez-moi, le Seigneur vous protégera, quitte d'envoyer ses anges pour vous protéger. Ça, c'est déjà fait. Et donc, la protection sera une réalité qui empêche Satan de nous attaquer. Donc, les procédés naturels de guérison dans nos corps peuvent faire leur travail car ils ne sont pas empêchés par Satan. Le sang de Jésus-Christ est la protection réelle et la meilleure et le meilleur désinfectant le plus puissant du monde car il est parfait sans contamination du péché. Encore un témoignage. Une famille était en voyage de Winnipeg à Toronto en voiture et venait par la grande route numéro 2 au Michigan du Nord. Ils avaient comme passager un jeune couple marié qu'ils amenaient à Toronto avec eux. Il leur avait parlé des vérités étonnantes en ce qui concerne de invoquer le sang de Jésus-Christ. Ils n'ont pas pensé que peut-être très bientôt, ils auraient besoin de comprendre cette formidable vérité. En montant une butte, quand il pleuvait à averse, ils ont heurté contre une grosse pierre et la voiture a dérapé contre le mauvais côté de la route. Et ils ont vu trois voitures qui approchaient à environ 100 km à l'heure et ils ne pouvaient pas éviter une collision terrible. Immédiatement, ils ont dit ceci. Nous avons commencé à invoquer le sang de Jésus-Christ à haute voix, tous ensemble. Or, nos deux amis, tout fraîchement mariés, étaient derrière, encore endormis. Ils se sont réveillés et ont réalisé que quelque chose de dangereux se passait. Alors, il a semblé qu'un ange du Seigneur s'est carrément chargé de toute l'affaire. Les trois voitures ont pu freiner à temps et ils ont même pu aider à remettre leur voiture dans le bon sens de la route. Quel merveilleux miracle! Chers amis, nous allons terminer cette première partie par la question « Comment invoquer le sang de Christ ?» Au commencement de l'effusion du Saint-Esprit en Grande-Bretagne, plusieurs assemblées indépendantes se sont développées. Je ne sais pas si on dit « développées », se sont construites. Et beaucoup de vivacité et de puissance a été visible dans ces assemblées. Il n'y avait pas une organisation qui unissait ces assemblées et les individus devaient seulement compter sur les mouvements de l'Esprit-Saint parmi eux et sur les talents variés et les actions du Saint-Esprit. Il n'y avait pas un concile pour imposer des restrictions sur leur usage ou leur credo. Donc, l'Esprit-Saint avait sa totale liberté. Plusieurs des croyants récemment baptisés avec la gloire du Shekinah, appuyés dessus, plaidaient le sang de Jésus-Christ à plusieurs reprises pour tout ce qui chargeait leur cœur de péché, des parents non rachetés, des divers problèmes dans la maison et dans la nation. C'était le sang qu'ils plaidaient devant le trône. Ils savaient qu'ils avaient un accès à ce trône, mais ils y entraient avec le sang de Jésus-Christ. Et ceux qui cherchaient le baptême de l'Esprit étaient beaucoup aidés de cette façon-là. Plusieurs croyaient que plaider le sang était une arme très puissante contre les esprits mauvais qui voudraient s'opposer aux réponses aux prières. Car nous ne devons pas oublier qu'aussitôt que Daniel a commencé à prier pour la libération de son peuple, il a fallu 3 semaines de bataille, et ceci à genoux, pendant que les archanges Michel et Gabriel livraient une bataille contre les puissances de Satan. C'est la même chose aujourd'hui. Plaider, invoquer le sang apportera de la consternation et de la confusion aux mauvaises forces spirituelles qui nous opposent souvent en retardant, on peut dire en retardant, les réponses à nos prières. Et nous pensons que plaider le sang doit prendre la première place, et ceci dans toutes nos prières. Oui, il faut le faire, il faut intercéder. Nous pouvons donc être assurés que quand on commence à plaider et à invoquer le sang de Jésus-Christ à haute voix, il nous garantira la victoire. Utiliser le sang nettoyera toute église ou groupe de prière et permettra les dons du Saint-Esprit de se manifester, de pouvoir se manifester. Si nous ne permettons pas au Saint-Esprit de faire ce qu'il voudrait, comment est-ce que nous pouvons savoir la volonté de Dieu? Jésus-Christ a dit que quand l'Esprit sera venu, et aujourd'hui il est venu, il nous conduira dans toute la vérité et il nous instruira. Lisez, notez, Évangile de Saint Jean, chapitre 16, verset 13, et la première épître de Jean, chapitre 2, verset 27. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Seigneur Dieu de sainteté, fais naître en nous une foi vivante en ton Fils Jésus-Christ et sois toi-même notre rocher et notre forteresse. Fais luire en nous également quelque chose de la joie victorieuse et de la foi triomphante qui ont transfiguré le visage de ton Fils bien-aimé. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime, c'est une réalité. Et nous vous aimons également. Soyez bénis. Et donc, la prochaine sera l'étude numéro 2. Il y en aura beaucoup, car ce thème est de la plus haute importance. Et vous allez apprendre énormément de choses qui seront profitables pour votre vie tout au long du cheminement de votre vie. À bientôt à nouveau. Au revoir.